Nouveau, bonjour. Oui, c'est toujours particulier d'être ici. Les arbres sont tellement grands. Et c'est pas comme s'il y avait un seul qui était grand, mais tous ensemble, en grandeur. C'est... Et je vis ça comme quelque chose de... avec humilité, quelque chose comme ça. Et avec la souplesse de la terre, c'est... Avec cette particularité de l'herbe là qui est un peu mousse. Et c'est très particulier. Et ça me rappelle, dans la tradition de Shambhala, ils ont Shugyam Trungpa, son enseignement. Une branche de leur enseignement, ça s'appelle la pratique du mudra. Nous, on pense que le mudra, c'est ça. Mais pour eux, c'est incarner en mouvement les enseignements. Quelque chose comme ça. Et j'ai expérimenté ça pour la première fois quand j'étais, il y a très très longtemps, à Naropa, aux États-Unis, au Colorado. Qui était fondée par Shogyam Trungpa. Et c'était un exercice qu'on faisait où c'était presque une mise en scène où on était par groupe de trois. Et donc, il y avait les principes que Shogyam Trungpa utilise, mais qui viennent aussi du taoïsme. Mais on peut aussi voir ça dans notre pratique, c'est de le « heaven », le ciel, la terre et l'homme, ou l'être humain, disons. Et donc, on est en groupe de trois. La première personne arrive sur scène et fait quelque chose qui correspond à terre, en mouvement. Prend une posture qui correspond à terre. La deuxième personne arrive et fait quelque chose qui correspond au ciel. Ce qu'il interprète comme ciel avec l'imposture. Mais par rapport à l'autre, donc la terre, la personne qui fait ciel, fait ça par rapport au positionnement de la terre. Et puis la troisième personne arrive et il incarne l'être humain, ou l'humain, qui est ce qui... fait le lien entre terre et ciel. Et donc, la troisième personne vient et essaie d'englober les autres ou se tisser entre les autres pour que les trois soient ensemble. Et c'est une façon très concrète d'expérimenter cette... les arbres qui vont là, comme ça, vers le ciel, la terre qui est là, douce, et puis... je, moi, l'être qui est là. Alors, je dis le taoïsme qui a ses principes aussi et quelque chose de semblable. Et nous, dans le zen, on va avoir la forme, le relatif, le sans-forme, l'absolu, le ciel, et puis... on n'a pas vraiment un nom pour ça, mais l'incarnation des deux, le relatif, disons que l'absolu s'exprime à travers le relatif. Et c'est nous. Ce n'est pas que nous, mais c'est la vie. C'est ici, maintenant, ce qui est. Et ces arbres, et la terre, et le ciel, et... tout ça, ça renforce cette expérience. Et je dis, C'est une expérience d'humilité parce que j'incarne quelque chose, nous tous, chacun incarne quelque chose qui n'est pas moi et qui est tout petit par rapport à ces arbres énormes, mais en même temps est ces arbres aussi. On est ces arbres, on est le ciel, on est la terre. Et donc depuis hier, je n'arrive pas à penser à ça, à ressentir ça. Et quand on va dans la forêt aussi, quand on se promène, on est dans la forêt, mais on vit ici différemment que quand on se promène dans la forêt. Et donc ça, c'est une autre expérience de ça. J'avais fait cet exercice dans les ateliers écriture et Dharma Art à un moment. Je ne sais pas si quelqu'un avait suivi ça. Dashen Scholling, on n'avait pas fait.
Okay.
Et on avait fait ça même avec, une fois quand j'ai fait un atelier Dashen Scholling, en même temps, il y avait un atelier de cette pratique mudra par la grande dame de cette pratique, Lee Worley, qui doit avoir 80 ans aujourd'hui. Et ensemble, on a décidé de faire une pratique entre nos deux ateliers. Et donc, mes écrivains, les gens qui écrivaient, ils avaient écrit des haïkus. Peut-être Isabella était là. Non, tu n'étais pas là, Fala? Non.
Je sais.
Ouais. On avait écrit des haïkus, donc il y avait trois phrases. Et on a pris chaque personne qui a écrit, chaque participant dans mon atelier, était mis avec un groupe de trois personnes dans l'atelier du mudra. Et les gens dans l'atelier du mudra étaient censés incarner, avec ces trois principes, avec les trois phrases du haïku. Et donc, la personne qui avait écrit lisait son haïku, première phrase, et puis quelqu'un arrivait sur scène et prenait sa position. Deuxième phrase, et quelqu'un venait et prenait la deuxième position, et puis le troisième, et l'autre personne est venue et faisait la troisième position. C'était magnifique, parce que les mots qui déjà incarnaient une expérience ou exprimer une expérience que la personne a eue, était relie et incarnée autrement, manifestée autrement à travers trois autres corps, simultanément avec la lecture. C'était vraiment magnifique. Pour approfondir cette expérience de ces trois éléments. Alors, si, donc, quand j'ai pensé à ça, cette expérience d'humilité, très humble, je me sens très humble vis-à-vis de ces arbres. Un peu comme un sculpteur qui va révéler la sculpture en enlevant du grès ou clay, ou je ne sais pas comment on dit ça, de terre. Ou du marbre, là, tchic, 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 pour enlever, pour révéler la chose. Ce qui se passe pour nous, c'est que quand on s'écarte de cette expérience, de cette humilité, est révélé ce monde dans lequel on vit, où il n'y a pas beaucoup d'humilité. Où on ne voit pas, on voit plutôt la séparation, on est séparé des arbres, on n'a pas de lien avec le ciel, on ne touche pas vraiment la terre, ou on ne le sent pas, en tout cas. C'est pas que c'est l'œuvre d'art qui est révélée par cet enlevé, mais c'est plutôt ce qui est révélé, c'est que quand on n'est pas entier, quand on se sépare, quand on est séparé de qui on est véritablement et qui est véritablement l'arbre, le ciel, la terre. Et on voit ça, évidemment, dans la façon qu'on se traite les uns et les autres, la façon qu'on traite l'environnement, la façon dont on parle, quand on pense, les préoccupations sociales et culturelles et économiques qu'on a. Et tout ça, toutes ces manifestations, on peut dire, qui s'éloignent du bien-être véritable, qui va plutôt dans la direction de faire du mal, disons, qui ne va pas vers l'unité, mais vers désillusion, disons. C'est parce qu'on a perdu de vue cette unité. On est un avec tout ça. Alors, il y avait un courant qui m'est venu à la tête de ça. Un courant déjà que j'avais pensé, comme certaines parmi vous savez, j'ai donné une conférence l'autre jour. Et donc, en préparant cette conférence, il y avait plein de choses. Oh là là, j'ai vraiment plongé très loin dans les préparations, des pages, des pages, des pages, des notes que je n'ai absolument pas regardées. Quand j'ai fait le discours, mais c'est pas grave, c'est ma façon de préparer. Et parmi les choses qui m'est venue quand je préparais cette conférence, c'était ce Coran. Et ça se tombe aussi que quelqu'un travaillait sur ce Coran en Dokusan pendant que j'étais engagée dans ces préparations. Et donc ça m'avait parlé. Je crois que c'est ce Coran, oui, je crois que c'est dans la liste qu'on a des Corans. Peut-être que ça vient d'une autre collection aussi, je ne sais pas. Malheureusement, je l'ai tout en anglais. Donc, il va falloir traduire pour... alors, c'est... When the Buddha was born, he walked 7 steps... and pointed to the heaven with one hand and to the earth with the other. Looking around the 4 directions, he said, above heaven and below heaven, I alone am the dignified one. Interpolating on this, Uman said, Uman, c'est un maître zen, de, je ne sais pas, probablement du 9e siècle en Chine. If I had seen him that time, I would have killed him with one blow of a stick and would have made a dog eat him up. After all, the world must be in peace. Alors, c'est une histoire zen. La première partie... l'histoire des 7 steps, quand le Bouddha est né, tout ça. Bon, c'est, si on fait un peu de recherche là-dessus, c'est un truc traditionnel.
How did Jen say dignified?
Yeah,
precise.
Yeah,
exactly.
Yeah. Mm-hmm. Yeah.
Digne.
Ah, oui.
Okay.
Oh, oui, oui.
Qui a
qui avait de la dignité.
Mmh. Oui, dignité, okay. Oui, c'est ça. Cette histoire de When the Buddha was born, bon, on sait très bien qu'un bébé qui naît ne prend pas 7 pieds, pas, n'est-ce pas, ni va faire ceci et cela et raconter quelque chose. Donc, pour nous, dans le Zen, on regarde ça plutôt. Probablement dans le bouddhisme traditionnel aussi, mais il raconte ça autrement, c'est quand il s'éveille, quand il a son expérience d'éveil. Les 7 pas, c'est quelque chose symbolique dans, je ne sais pas quelle tradition, dans un sutra, je ne sais pas. On ne s'occupe pas de ça. Ce qui est important, c'est que c'est le moment où il s'éveille, quand il voit la fameuse étoile du matin, et il réalise quelque chose. Alors, il y a différentes traduction, interpolation de qu'est-ce qu'il a dit. Évidemment, on entend souvent différentes choses. C'est quelle merveille, moi et tous les êtres vivants à travers l'espace et le temps sont simultanément éveillés. Note C, tous les êtres ont la vertu et dignité du Tathagata et sagesse du Tathagata. Tathagata étant le Bouddha, celui qui est éveillé. Ça se rapproche « I alone am the dignified one ». C'est juste une autre traduction de ça. Il y a une version où... ça c'est à peu près les trois versions qui retombent plus ou moins pareil. Alors, mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? I alone am the dignified one. Mais aussi, moi et tous les êtres à travers le temps et l'espace sont simultanément réveillés, ou tous les êtres ont la vertu et sagesse du Tathagata. Toutes ces différentes versions tournent autour de la même chose, c'est que il voit l'unité de toutes choses, disons. Dans le zen, on dirait ça comme ça. Il voit l'unité de toutes choses. Il voit la non-séparation de moi et l'autre. Moi et tous les êtres à travers le temps et l'espace. Donc, il y a tout et maintenant, et tout le monde est éveillé ici maintenant. Dans cette version, dans le koan, c'est moi seul, je suis l'éveillé. Est-ce que c'est différent? Si il réalise que tout est un, que moi et l'autre c'est pareil, il n'y a que ça ici maintenant, qui est éveillé. Alors on dit, dans les enseignements traditionnels, on appelle sa réalisation Anuttara Samyak Sambhari. On chante ça parfois dans les cérémonies, etc. Anuttara Samyak Sambhari. Ça veut dire « unexcelled complete awakening ». Donc, insurpassable, comme le voit le Bouddha. Total, éveil. Total parce que ça englobe tout, ici, maintenant. C'est insurpassable parce que c'est tellement grand que rien n'est à l'extérieur de ça. Éveil parce qu'il était endormi. Il ne voyait pas. Et comme je dis souvent, il arrive à cet instant, il voit soudain, et c'est pas qu'il est extraordinaire, c'est comme moi je dis souvent, c'est comme s'il réalise qu'il est arrivé en retard à la fête. Tout le monde est déjà là, et lui, il vient juste d'arriver. Ah oui, bien sûr, tout le monde est éveillé déjà. Ah, ok. Alors, on a ce qu'il dit ici dans le Coran, et puis il y a ce que Ouman dit après. Alors, Ouman dit, si moi j'étais là, si moi j'avais été là, à ce moment-là, je l'aurais tué avec un coup de mon bâton, et je l'aurais trouvé un chien pour le manger. Après tout, il faut que le monde soit en paix. D'accord ? Alors, souvent, c'est ce qui se passe. On va tout détruire pour faire la paix, n'est-ce pas? On va complètement détruire Gaza, comme ça on sera en paix. On va complètement humilier notre collègue, comme ça il ne va plus nous emmerder. Souvent, c'est ce qu'on fait. On va tuer l'autre pour que tout sera en paix. Moi, je ne sais plus le problème avec cette personne, cette chose. Je vais détruire les aspects de moi-même que je n'aime pas. Comme ça, je vais être en paix. Alors, la grande illusion, n'est-ce pas? On sait très bien que ça ne marche pas comme ça, mais on le fait tout le temps, quand même. Alors, pourquoi Ouman dit ça? C'est soi-disant un grand maître. Est-ce qu'il est véritablement en train de dire le Bouddha, je devrais le tuer? C'est vrai qu'il y a, une phrase en zen, si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Il y avait même un roman autrefois qui j'avais fait un critique littéraire de ce livre qui est, je me souviens pas le, le nom, c'était The Soloist et c'était l'histoire d'un cello, comment on dit cello en français?
Violoncelliste
qui commençait la pratique de zen. Je pense que l'écrivain ne connaissait pas très bien le zen, mais a pris littéralement, si tu rencontres le Bouddha, tu le tues. Et il a tué son maître dans le zendo. Parce que je ne me souviens plus pourquoi. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Ouman nous donne une indication, mais c'est pas clair si on regarde ça d'une certaine façon, n'est-ce pas? Disons que si Ouman avait été là, il y aurait eu je qui était là vis-à-vis le Bouddha, l'autre je. Et donc évidemment, il aurait tué. Parce que ce personne prétend qu'il est le meilleur, ça aurait été un malentendu si Ouman arrive et s'il était là. Ouman ne pouvait pas être là. Comment il pouvait être là, Ouman? Si Ouman était là, ça aurait été pas cette situation-là. Et le Bouddha n'aurait pas été le Bouddha. Déjà, juste sur le point historique, c'est impossible. Sur le point de la réalisation, si Ouman avait été là, il aurait été le Bouddha et il aurait réalisé la même chose. Donc, il ne pouvait pas être là non plus. Donc, s'il dit « j'avais été là », il aurait été dans la séparation. Évidemment, il aurait tué. Détruit. Parce qu'il aurait été dans cette dualité, séparation, concurrence, différence, meilleur, moins bien, tout ça. Mais on peut voir aussi dans ça que on peut voir ça à travers cette autre phrase de « si tu rencontres le Bouddha sur le chemin, tue-le ». Parce que dès qu'on dit « Bouddha » et pas « Bouddha », on rentre dans cette séparation de nouveau. Donc, il faut le tuer. À un moment, il y a très longtemps, je ne me souviens pas, c'était un contexte, un Dharma talk, c'était à Dana, et j'avais parlé de mon Dharma name, mon nom de Dharma, qui est « tu es cela ». Et Ida, ceux qui connaissent Ida, Dana, certaines personnes le connaissent, Ida a c'est quelqu'un qui était dans l'autophage, il s'est levé la main et elle me dit « Mais c'est incroyable que c'est ton Dharma name, ça !» J'ai dit « Pourquoi ?» Elle me dit « Tué ? Toi, tu as tué dans ton Dharma name ?»«
Tué cela !»«
Tué cela !»
«
Quoi ?»«
Nakarishu »
C'est un jeu de mots en français.
Ah, ok. Yeah.
Wordplay in English.
Yeah.
Probablement dû aussi à ma prononciation. Peut-être un Français ne prononçant ça, personne ne va le confondre, je ne sais pas. Si, ça
oui,
pouvait être.
Tu es cela.
C'est
Ida qu'on met en question.
Quoi?
C'est Ida qu'on peut mettre en question.
Oui, c'est ça. Mais ça indique aussi où, qu'est-ce qu'on entend par... Parce que d'une certaine façon, oui, il faut tout tuer. Il faut tuer soi-même pour réaliser ce qui est véritablement. Pour se libérer, donc... se libérer de nos attachements, de nos idées de qui on est. Il faut tuer toutes ces idées de soi. Quelque chose comme ça. Donc, on dit aussi que le Bouddha peut, après cette réalisation, les versions diffèrent sur 40 jours, 9 jours, différentes, le même jour, etc. Il est allé voir ses anciens copains parce qu'il a réalisé que il a réalisé la voie du milieu, c'est-à-dire les deux extrêmes amenés que à la souffrance, tuer les autres, détruire tout, etc. Tuer soi-même, tuer les autres, obtenir, saisir, etc. Les deux extrêmes. Donc, il a réalisé la voie du milieu et il va voir ses copains pour voir ce qui se passe avec eux. Ceux qui étaient dans cette pratique très ascétique où ils ne mangeaient pas, ils ne s'occupaient pas de leur corps parce qu'ils voulaient, ils pensaient que ça allait, ça, il n'y aura plus de souffrance s'il n'y avait plus de ce corps. On dit qu'il les a vus, il est allé juste parce que, pour compassion pour eux. Ils l'ont posé des questions et donc ils leur ont parlé. Il a donné le fameux discours au Deer Park où il parlait des quatre nobles vérités, ce qu'on dit, nobles vérités. Mais c'était ces quatre. Qu'est-ce que c'est, Stephen Batchelor? Quatre vérités?
Les quatre Four tâches. Truths?
Non, je ne sais pas.
Ah, lui, il les a transformées en quatre tâches. Ouais.
Tâches, mais c'est ça. Mmh. Tâches. Donc il y a différentes versions de ça aussi, mais ça revient au même en fait, ce qui est indiqué dans ces quatre choses. Et c'est comme un médecin qui pose un diagnostic établit si ça peut être guéri ou non la maladie, dit ce que c'est la cause de cette maladie, établit si ça peut être guéri ou non, et puis donne l'ordonnance pour comment le guérir. Et ce que c'est des tâches, des vérités, des étapes, je ne sais pas, mais ça revient au même, ça. Et grosso modo, son diagnostic, c'est qu'on est malade, entre guillemets, parce que on est contrainte par notre incessant tentative de accomplir l'impossible. C'est-à-dire qu'on veut obtenir, on veut arrêter, on veut posséder, on veut que les choses soient autrement. On veut que moi je suis fixe, on veut arrêter le temps, on ne veut pas vieillir, on ne veut pas... tomber malade, on ne veut pas mourir. Ça, c'est vraiment les trois choses de base. Et donc, c'est impossible. Et c'est ça qui nous pose tellement de problèmes, de frustration. C'est impossible de ne pas vieillir. Si, on peut être mort. Donc là, on ne va plus vieillir. Hein. Mais tant qu'on est en vie, on va vieillir. On va être malade, on va mourir. Et toutes nos tentatives d'arrêter ça, et là, on voit en grandeur, en technicolor, à travers le monde, partout, à chaque instant, les tentatives de ça, de cette impossibilité de lutter contre l'impermanence, de lutter contre l'interconnexion, l'interdépendance, et d'essayer de refuser le fait qu'on n'est pas qui on pense qu'on est. On veut absolument établir qu'on est ceci ou cela. Quoi?
Tu es cela.
Exactement. Bon, tu es cela. Mais c'est quoi cela? Et je dis souvent, l'astuce de mon teacher était que c'est pas je suis cela, c'est tu es cela. Parce que dès que c'est je suis cela, voilà, ça devient très concret. C'est moi. C'est son astuce, entre guillemets. C'est un nom, c'est un terme très, très, très ancien qui, des Upanishads, bien avant le bouddhisme. Elle n'a rien inventé. Mais elle a pris ça, elle a donné ce nom. Donc, c'est, le fait est qu'on veut, on refuse l'impermanence et on refuse le no-self. Et ce n'est pas le no-self comme on pense, c'est there's no, il n'y a pas un self, un moi qui peut être saisi, qui peut être tenu. Le véritable moi, c'est le moi qui ne peut pas être tenu, qui n'est pas fixe. Et c'est marrant, Alan Watts, qui est extraordinaire hein, pour les vues sur les choses et ses façons de les formuler, il dit. Oh merde, j'ai perdu soudain. En qualifiant Alan Watts. Qu'est-ce que je voulais dire à propos du self? Ah, ça me fuit. Bon, ça va revenir. Quelque chose d'Alan Watts, en tout cas. Illuminant. ça va rester une énigme pour le moment. Donc, j'ai pensé à ce courant, donc, dans la. Quand je préparais cette conférence, parce que c'est radical. C'est ce que le Bouddha réalise, et sa formulation de ça est radicale. Par contre, il ne peut pas... il sait qu'il ne peut pas le dire, il ne peut pas vraiment exprimer ça. C'est pour ça qu'il hésitait à voir ses amis, parce que dès qu'on met les mots dessus, ce n'est pas ça. Il n'y a que l'expérience qui peut nous ouvrir le cœur, les yeux, l'esprit à la nature véritable de toute chose, de réalité. C'est pour ça qu'on a un chemin comme ça, c'est pour nous aider à ouvrir les yeux, le cœur, l'esprit, pour expérimenter ça. Les mots, surtout dans la tradition zen, les mots ne sont jamais ça. Et là, c'est une... ça aussi, c'est Alan Watts qui dit... les mots, c'est le cadre du Maya. Maya étant l'illusion, les choses illusoires. Les mots sont le cadre de ça. C'est comme un filet et c'est les mèches, les mailles d'un filet, les mots. Mais l'expérience... c'est l'eau qui passe à travers. C'est une très jolie image. Hein? Mm-hmm. C'est l'expérience de ce qui est, mais l'expérience de boire un verre d'eau, disons. C'est pas le verre, c'est pas les mots qu'on met là-dessus, c'est pas les descriptions, c'est pas l'analyse scientifique de ce que c'est l'eau, c'est pas un poème sur l'eau... ce n'est pas un dessin ou une photo. L'expérience, ça passe à travers tout ça. C'est direct, disons. Et donc, une chose que le Bouddha avait dit, donc quand il dit cette « I alone am the dignified one, above heaven and below heaven », donc au-dessus du ciel et en bas du ciel, il n'y a que moi qui est digne, quoi, le seul, unique, I alone am. Ces mots ne peuvent absolument pas dire ce qu'il expérimente. C'est impossible. Parce que tout de suite, on a les mots, c'est des codes, c'est des ententes culturelles et sociales. On est tous d'accord que ça, c'est un verre. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. On est tous d'accord là-dessus. Mais ça veut pas, c'est rien à voir avec l'expérience de ça, de sa véritable nature. Donc, ce que le Bouddha dit, c'est jamais, c'est pas ça. Donc, Ouman nous pointe vers ça, dire, si on n'en a pas cette expérience, on va entendre ce que le Bouddha dit, comme il faut le tuer, il faut le faire manger, parce qu'il faut que tout le monde soit en paix. Alors, une chose autre que le Bouddha a dit, et ça touche au mot, c'est, encore une fois, c'est en anglais. I obtained not the least thing from unexcelled complete awakening. Donc ça, c'est de Anuttara Samyak Sambhavi. And for this reason, it is called unexcelled complete awakening. Ça, c'est le zen par excellence. Hein? Donc, je n'ai rien obtenu. Je n'ai rien, pas la moindre chose de cette expérience d'éveil complet et insurpassable. Je n'ai rien obtenu. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'éveil complet insurpassable.
L'éveil zéro.
Awakening.
Awakening.
Awakening. Enlightenment.
Yeah, I know, I got it. But you said le veil
complet.
Insurpassable.
Unexcelled. Comment on dit d'ailleurs les veils en portugais?
C'est ça. Non, veil.
Non.
Non.
Despertar.
Comment, comme c'est la parole? La
parole. Awakening.
No,
awakening.
In French.
Éveil.
Éveil. Ok. Éveil.
Sim. Em português o quê?
É o que nós temos de despertar.
No mesmo mot.
Sim. Oui.
O Buda despertou.
Oui, oui, oui. Éveil. Éveil. E I was only listening veil.
Ah. E iluminé? Iluminação.
Iluminação. Pai.
Enlightenment.
Éveille-toi.
Et donc, il y a toujours ces espèces de non-sens dans le zen, parce que le zen, c'est la voie par excellence où, on dirait même, le Bouddha n'a jamais dit un mot. Bien que des livres, des livres, des livres, des sutras, et moi je suis en train de dire, il a dit ceci, il a dit cela. Bien que bon, lui il n'a jamais rien écrit non plus. Tout ce qu'on a, les traces, c'est plusieurs siècles après. Et donc ça commence toujours avec Thus I've heard. Je sais pas en français quelle est la formule.
Ainsi j'ai entendu.
Oui, ainsi j'ai entendu. Parce que, bon, c'est magnifique aussi, à cette époque, tout c'était la tradition orale. Et donc, on disait quelque chose et on la répétait. Et la façon que les sutras sont construits aussi, c'est pour cette raison-là. C'est pour que les gens pouvaient se souvenir. C'est plus facile de mémoriser quelque chose si c'est répété. Et donc, il y a beaucoup de répétitions dans ces sutras. Problème, si on mémorise et on n'a pas l'expérience, alors là, c'est juste des mots. Si on a des expériences, l'expérience de ça, c'est même les mots, c'est pas ça. C'est pour cette raison qu'on dit que le Bouddha n'a jamais dit un mot. Parce qu'il incarnait cette expérience de libération, d'éveil, de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité absolue, etc. Et donc, souvent, quand les mots, donc on prend cet exemple dans ce coin, donc quand il dit I alone am the dignified one, on a l'impression que c'est quelque chose. Il est quelqu'un et c'est quelque chose qu'il a réalisé. Lui, quelqu'un, a réalisé quelque chose. C'est ça, les mots font ça. Et donc, le zen, la particularité du zen, c'est qu'il y a toujours cette façon de négation. Parce qu'on essaie de détourner les mots. Et Ouman joue ce rôle dans le Coran, c'est qu'il essaie de détourner ce qui a été dit, détourner ce qu'on pouvait croire, mais d'une façon un peu insensée. Pour nous retirer le tapis sur notre compréhension des mots, disons. Pour nous renvoyer plutôt à une quelque chose d'expérientiel. Et on sait très bien ce que c'est la différence. Quand on boit un verre d'eau, c'est très différent que notre souvenir de boire de l'eau, une explication de d'où est venu ce verre, de quoi il est fait. L'eau, c'est l'eau de source ou c'est l'eau de bouteille. Très différent. Très, très. Et tout le monde comprend ça tout de suite. Mm-hmm. Bah, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour. Si c'est accoucher, une femme qui a accouché sait ce que c'est donner naissance. Quelqu'un qui n'a pas accouché ne sait pas ce que c'est. Bien sûr qu'il le sait ce que c'est. Il a décrit, on se comprend, on a étudié ce que c'est donner naissance, mais l'expérience d'accoucher, ce n'est pas la même chose que les mots. De même, être assis sur son coussin, ce n'est pas la même chose qu'une description de ce que c'est être assis sur un coussin. Ou tous les concepts qu'on amène sur notre coussin. C'est pour ça qu'on dit, on invite tout le monde à venir dans le Zendo, mais on vous invite à laisser les chaussures à la porte. Et laisser non seulement les chaussures à la porte, mais laisser ses idées à la porte. Laisser ses attentes à la porte. Laisser ses concepts à la porte. C'est une exigence assez poussée de laisser tout ça à la porte. Mais c'est notre intention. On essaie de laisser...
Moi.
Voilà, c'est l'ultime laissé à la porte, mais c'est vaste programme, ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et il y a quelque chose, juste en prenant cette posture, il y a quelque chose qui est blessé. Est abandonné, que ce soit sur une chaise, sur un tabouret, assis comme ça, et c'est important de prendre une posture et d'être précis dans cette posture et stable, très important de s'établir quelque part pour pouvoir lâcher, pour pouvoir abandonner. On sait que les enfants, par exemple, quand ils apprennent à faire du vélo, ils ont des... En anglais, on dit training wheels. Qu'est-ce que c'est, les petits...
Les petits roues.
C'est ça, à la petite roue, on dit. Oui, très, très important, ça. Pour apprendre à faire le vélo. Et puis, à un moment, on va enlever ça, ces petits roues. Et, waouh, yeah, c'est d'autres choses, hein. C'était très important d'avoir cette stabilité, d'apprendre, de sentir, de familiariser avec cette expérience. Et puis à un moment, bon, bien sûr, l'enfant va tomber, il y aura des accidents, etc. Mais cette stabilité était très importante. C'est la même chose avec quand on apprend à faire le ski, quand on nage. Je sais que mon mari adore raconter l'histoire que quand ma fille, elle avait, je crois, 5 ans, ou je ne sais pas, 4 ans peut-être. Et elle avait le...
Une bouée.
Mais quand même, elle ne voulait pas laisser le bord. Si elle laissait le bord, elle voulait que quelqu'un le tienne dans la piscine. Et donc, et puis, à un moment, petit à petit, il l'a lâché. Et bien qu'elle avait le bouée, c'était une espèce d'illumination qu'elle pouvait être sans attache. Après, il fallait laisser le bouée. Mais cette première expérience, waouh! Mais c'était important d'avoir cette attache. C'est pour ça que la posture, ça nous cadre, ça nous donne une base très solide pour pouvoir ensuite lâcher. Et quand on peut vraiment lâcher, on lâche nos concepts, nos idées, nos pensées, nos attentes, il y aura un moment où, ah oui, bien sûr, où on va juste ne pas être séparé du son, où on va juste... la douleur dans le genou, on ne le ressent plus du tout de la même façon. Et là, c'est très puissant. Évidemment, on va revenir. On va perdre le fil, on va être obligé de revenir, mais cette stabilité de la posture et la pratique, la technique qu'on a, nous aide beaucoup à lâcher. Et plus on peut lâcher, plus on peut expérimenter cette liberté que tout bouge à chaque instant de toute façon. Il s'agit juste de bouger avec, d'être avec, plutôt que de lutter contre, être avec. Et puis finalement, on voit qu'on est cet instant, on est tout ce qui bouge. Oui, on dit parfois que cette instruction ou cette idée qu'on a que dans la méditation, il ne faut pas bouger, on interprète ça comme il ne faut pas bouger physiquement. Il est vrai que ça aide de ne pas bouger physiquement, ça aide de accomplir, entre guillemets, ce qui est le plus important ou l'objectif, qui n'est pas un objectif, c'est de ne pas bouger de cet instant. Il ne s'agit pas de ne pas bouger physiquement, il s'agit de ne pas bouger de cet instant. Souvent, dans la méditation, quand on bouge physiquement, on est en train de bouger de l'instant. On est en train de partir ailleurs, de penser à autre chose. C'est insoutenable de juste rester ici avec ce qui est, et donc il faut bouger. Il faut changer de posture, il faut aller ailleurs. Même si c'est juste se gratter la tête. Ça nous amène ailleurs. Ça soulage. C'est insoutenable de juste être avec ce qu'il y a. On n'a pas l'habitude. On n'est pas familier avec ça. Et donc, il faut bouger. Il faut faire d'autres choses. Il faut penser à d'autres choses. La personne à côté de moi m'énerve parce qu'il bouge. C'est pas. Ah, j'écoute la chanson, c'est magnifique. Quel genre d'oiseau c'était? Ah oui, je sais. Je me souviens ici, une fois, Christine nous a raconté que le coucou envahit les... est très beau le chant, mais ça envahit les nids des autres oiseaux. C'est terrible, le coucou. Je savais pas ça. Mais... Et donc, on n'est plus du tout ici maintenant. On est en train de penser, il y a 3 ans, quand Christine nous a raconté ça ici, en écoutant le coucou. Et puis on se dit, ah oui, mais pourquoi je pense à ça? Ok, et je reviens ici. Comment on dit coucou en portugais?
Coucou.
Ah oui, pas. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire de notre vie, de notre pratique. C'est la mauvaise nouvelle, c'est ça, qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Que c'est très, très simple, en fait. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Et donc, La bonne notice qui ne sent plus. Il ne sent plus. Donc, c'est ce qu'on appelle la voie de libération. Est-ce que quelqu'un a l'heure?
Il est 1h10.
Ok. Ce qu'on appelle la voie de libération, c'est juste se libérer de, en fait, il y a Stotkan ou le... L'étudiant vient et dit, maître, je vous en prie, il faut me libérer, je suis lié, il faut me libérer. Et donc, en anglais c'est bind. Please free me. And the maître dit, what is it that's binding you? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes tenu par quoi? Et il ne sait pas. Je ne sais pas. Et donc, le maître a dit, vous êtes libre. C'est-à-dire que c'est nous qui vont se tenir, se limiter. On n'est pas limité de nature. On n'est pas tenu par quoi que ce soit. On est libre de nature. Mais on a tellement d'idées et tellement de concepts. Et tellement, on a peur aussi d'être libre. C'est ça qui est difficile. Souvent, les gens, ils arrêtent la pratique des koans, parfois aussi, par peur, parce que ça fait peur d'être libre. Avant qu'on sait ce que c'est notre concept de ce que c'est être libre qui fait peur. C'est beaucoup plus confortable d'être tenu, d'être... Même si c'est pénible, mais cette persona, cette je que je déteste ou que je ne veux pas être, parfois on s'accroche à ça dur comme fer parce que c'est familier. Tandis que si on lâche ça, ben on est quoi? Il y a quoi? Si je ne suis pas ça, je suis quoi? Alors, le Bouddha l'a dit. I alone am the dignified one. Mais ça veut dire que tu es cela. Tous. Et ce I alone am. Ce n'est pas que lui. Enfin, si, c'est que lui, mais tu es lui. Aussi. Ok, je m'arrête là et puis si vous avez des questions, commentaires, choses à ajouter.
Ajouter. Très sympa.
When you have said, I think. This is mostly about three stuff. The fight for not dying, something that I already forgot, and you didn't say fighting, I think, for the interconnection, or denying.
Well, we say the three aspects are... Old age, sickness, and death.
Oh, we want the impossibility of not being sick, the impossibility of not dying, and why do we deny the interconnection?
Well, this has to do with impermanence, right? These three.
Yeah.
Because everything is impermanent. Everything dies. Everything that is alive by nature will die. That's just the nature of life.
Yeah.
And sickness and old age and death, right? So then the other aspect he talks about is no self,
mm-hmm.
which has to do then with the interdependence. Mm-hmm. Because if I am one and unique self, then I have no connection with this other one. I'm denying this interconnection. Also with the trees. with the birds, with the other.
But why?
Because if you were this,
what do we think we are taking care if we do that?
If, well, what do you think? I mean, what's your experience?
I don't know. I have a very good aunt. Aunt. She really helps me with stuff in my life. With the kids, if I have really money problems, she offered on the. But I don't like to be with her because she's really boring, and I really feel really bad about this because she's alone. She's older, alone with no kids, and
that's pretty boring, isn't it?
And I was thinking, why do I have such a problem? Because I do stuff that I don't like. It's okay. I can go meet a person that she's a good person and take the time to be with her. But I really resisted. And I was thinking, why is this? Am I afraid to end up like her? I don't know. I was trying to understand my resistance. And you told this about we and the interconnection. And we do deny, and this can't be because you have more money than me, and this has to, when it's quite obvious for everyone, it feels kind of easy. But what I'm asking about is what are we defending when we deny the interconnection, interdependence?
Mm-hmm. Mm-hmm. Well, this is a very good question. What are we defending? So if we really look into it, we discover that we're defending some idea of myself and the other. So, and that's just conceptual description of it, because this very concrete example you have, so you have an idea about yourself and you have an idea about her. And experiential, right? I mean, so you know who she is. She fits into these categories. What did you say? She's old, she's alone, and she has no children?
Yeah.
Right. Does she have a cat?
Not even a cat.
Oh. So she can't be a childless cat lady. But
she has the neighbors' dogs and, right, okay, and cats. Yeah.
So, you know, so there's these things, right, that's a description of her, but it speaks that's the way you described her. Mm-hmm. You know? It could have been, you know, something like, yeah, she has 10 children. She's telling everybody what to do all the time. She tries to make you eat all this food that you don't like. I mean, it could be something else, right? But there's these characteristics about the other that we establish. There's characteristics about ourself that we establish. And then we fix those into an identity, and we're protecting our identity by rejecting the other, in a sense. I mean, this is really simplifying it, but mm-hmm. it comes down to that.
But it's,
it comes down to that.
So we are afraid that the other one
threatens
our identity.
Right, or in some way.
In some way.
Some way. It can be violent, it can be just, I don't know, something that is unpleasant, all different, many different manifestations of why we reject the other. It comes down to the very basic common denominator of fixed self.
Yeah, because it is very basic. I was thinking our peur in French, in English, I forgot, this is too many languages, why we are so afraid. And I was thinking of myself. It's something about control.
Mm-hmm.
Because mm-hmm. if we let go, for me, I really think I'm in a bad place. If I let go of everything that are important for me, I think something horrible.
Right.
But I don't know what.
That's right.
But it looks like almost like fantastic. But in a bad way,
mm-hmm.
But it's nothing. It's just something. I don't know why we do this, but I do this. I
fear, feel, like can
yeah, yeah. It fear. It's fear, and it's primary.
Yeah.
It's really.
Because if we don't, if it's not known,
yeah,
then we establish that, we think of it as being frightening if it's not known. But actually, it's all unknown anyway. We've established all these ideas so that we think we know it.
And that's why you always say just trust.
Well, then, yeah, trust is essential, right? And then when you sit on your cushion, you learn to trust. Because you sit there for 30 minutes and you don't know what will happen. You're not engaged in control. Of course, we are sometimes.
Yes.
But we're letting things be. We're not, you know, adjusting the environment around us. We're not telling the other people what to do. Sometimes we engage in that too, but the principle is that we just sit here. Just let everything go for 30 minutes. And the more we do that, the more we can learn that we can trust that. But we don't have to control everything. We can't.
We can't. Yeah.
And that's what our basic frustration is. You know, the Buddha pointed out, we're trying to control it and we can't. And therefore, we're just like suffering because of that. Suffering is not really the best word for it. That's why discomfort, frustration, displeasure, fear, you know, because
mm-hmm.
we can't control it. It's out of our control. There's nothing to control. That's the absolute point of view. There's nothing to control and no one to control it. But we think there is. Everything is, you know, this absolutely perfect cosmic dance that doesn't need anything from us involved in it.
Yeah, we are just fixed to our identity and think if mm-hmm. we let go of it, something bad will
right.
happen.
That's why this experience, that's why I say it's so humbling, this experience of the grandeur of the trees and the softness of the earth, you know, and it's like, suddenly I'm nothing in this. I'm everything. But if I'm everything, I'm nothing. You know? Which is a wonderful experience, although terrifying.
Yeah.
That's right. Yeah. Donc ça, c'était en anglais parce qu'elle a posé des questions.
Merci.
Tu
as
pu traduire ?
Oui, oui, c'est bon.
Ok. On a tout le temps.
Il est 22.
Quel est-ce que c'est ? On est 30.
Lunch, c'est 6h30.
Ok, thank you.
I have been sitting with this fear the whole day. Oh, pardon, j'ai... Merci, pardon. Des fois, je ne sais pas quelle langue je parle. J'étais sur ma chaise, pas mon coussin, mais avec cette peur toute la journée, depuis ce matin. Et c'est une expérience physique. Mais c'est aussi, je me suis demandé, c'est quoi cette peur? D'où ça vient? Et je crois que la peur vient du refus de la souffrance. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas que quelque chose arrive à mon petit-fils qui a un problème en ce moment. Je veux pas vieillir et avoir mal partout. Et je veux pas que mon ami meure et... Parce que j'ai pas envie de souffrir. Parce que, voilà. Et ça brasse, là. C'est vraiment... Je sais pas par quel bout prendre. Je sais juste être avec ça. Voilà.
Et ça, merci, c'est un exemple de... Ok, on ressent ça. Et on prend conscience de ça. Ce qui est formidable, hein, c'est déjà très important de prendre conscience de « j'ai peur
mm-hmm. ».
Parce que parfois, on n'a même pas, mm-hmm. on ne sait même pas qu'on a peur. Et on va agir et faire des actions à partir de cette peur, dont on ne sait même pas ce que c'est. Donc c'est très important de le reconnaître. Et puis de les questionner, de dire mais quoi faire, et de voir les différents aspects de ça. Et dans tout ce que tu as décrit, c'était des choses que tu ne veux pas. Et tu ne veux pas que ça arrive. Et ça, c'est très important de reconnaître aussi. Hein? Parce que ça peut être, je veux que quelque chose arrive et j'ai peur que ça ne va pas arriver. Je veux gagner ce prix. Je veux être formidable. Je veux que cette personne m'appelle. Et on a peur que ça ne se passe pas, de nouveau. Ou on va le perdre ou quelque chose.
C'est aussi un fond de contrôle, peut-être.
Oui. Oui, c'est ça. C'est le même origine, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, faux, comme tu dis, on reste avec ça. On peut regarder, alors, qui a peur, qui va, c'est une espèce de court-circuit. On ne va pas analyser la peur, oui, je sais, parce que mon petit-fils a un problème, donc ça peut lui arriver ça, donc c'est pour ça que j'ai peur, nanana. Ou mon ami est très malade, etc. On ne va pas rentrer dans toutes ces analyses, mais on va poser cette question qui va vers l'essence, c'est qui a peur. C'est une façon de reconnaître qu'il y a peur. On a peur, j'ai peur. Tu as déjà identifié de quoi tu as peur. Tu dis, ok, je reconnais tout ça, c'est vrai, c'est valable, j'ai entièrement ça, mais qui? Qui a peur? Et ça, ça ouvre les horizons, ça ouvre l'espace autour de la peur. On ne sait pas où ça va nous amener. C'est un saut dans l'inconnu aussi. Parce que si on commence à questionner qui, bah, ça veut dire que qui je pensais que, qui a peur, c'est peut-être pas ça.
Qui a peur,
le qui que je pensais avoir peur. The one who I thought had was afraid is not who I thought it was.
Okay.
Maybe.
Maybe.
I'm asking this question.
That doesn't exist, maybe.
Right. We don't know. I don't know what I'll find if I do that.
Okay.
But I am taking a plunge. Absolument. Un plunge dans l'inconnu, dans le je ne sais pas.
De la souffrance.
Quoi?
De la souffrance.
Oui. C'est ça. Qui souffre? Et donc, parce qu'on peut facilement identifier de quoi on souffre. Enfin, facilement. On peut identifier un certain nombre de choses, mais ça, c'est un peu, entre guillemets, superficiel, parce que ça ne va pas aller jusqu'au cœur de ce qui est véritablement cette souffrance. D'où ça vient véritablement?
En même temps, c'est normal de souffrir des malheurs qui sont...
Absolument, possibles. Tout à fait. C'est ce qu'on dit, il y a ce dicton, « Pain is unavoidable. Suffering is optional. Mm-hmm. » C'est-à-dire que, oui, on expérimente la douleur de la perte de quelqu'un. J'étais à un enterrement mardi, et c'est vrai. C'est vrai, il y a cette expérience de perte, de deuil, de cette tristesse, de voir les fils de cette femme qui est mort. Oui. Mais si on s'identifie avec ça, et si on essaie de résister, de ne pas mourir, de ne pas laisser mourir, d'essayer de lutter contre ça, on va ajouter la souffrance à cette douleur qui est inévitable. C'est vrai. Et vouloir les choses, le bien-être pour notre petite-fille, c'est normal aussi, entre guillemets. Mais si on si on se projette et on s'attache à un résultat précis, on ne le laisse pas vivre pleinement ce qui est. Et nous non plus. Donc il ne s'agit pas, effectivement, il s'agit pas de nier la douleur qu'on ressent, ou la peur, mais plutôt d'aller, qui sent ça? C'est véritable, on sent ça, mais qui sent ça?